réplique la 5e République de Mitterrand à Macron, avec Jean-Louis Bourlange et Franz-Olivier Gisbert. Sursaut et La Belle Époque, Franz-Olivier Gisbert publie le 3e tome de son histoire intime de la 5e République. Ce volume porte sur la période qui va de 1981 à nos jours. Histoire brûlante donc, dont nous allons parler avec Franz-Olivier Gisbert et Jean-Louis Bourlange, l'un des observateurs et des acteurs les plus avisés de la politique française, aujourd'hui député Modem à l'Assemblée nationale. Vous avez intitulé votre dernier livre, Franz-Olivier Gisbert, « Tragédie française ». Pourquoi ce titre désespéré? Que nous est-il arrivé depuis la Belle Époque? Qu'y a-t-il de si tragique dans la longue séquence Mitterrand, Chirac, Sarkozy, Hollande, Macron, Franz-Olivier Gisbert?
Ben, j'ai envie de vous répondre par une phrase de Peggy, ça va vous plaire. Taire la vérité, n'est-ce pas déjà mentir? Qui ne gueule pas la vérité, quand il sait la vérité, se fait le complice des menteurs et des faussaires. Ça, c'était dans les cahiers de la quinzaine, Charles Peggy. En fait, on vit une tragédie en ce moment. Mais c'est absolument évident. Il suffit de sortir, de regarder ce qui se passe. Délitement général, délitement de l'autorité. Délitement de l'autorité, je crois que c'est absolument fondamental. C'est du haut en bas de la société. Ça se sent partout. Bon, désindustrialisation. Bon, il y a des efforts qui ont été faits, ça, on va pas le nier. Mais en même temps, nous sommes aujourd'hui le pays le plus désindustrialisé d'Europe avec la Grèce. On est la lanterne rouge. On peut dire la même chose aussi en matière d'endettement. On est l'homme malade de l'Europe. Donc, oui, je dis c'est une tragédie, mais c'est pas parce que c'est une tragédie que c'est foutu. Moi, je fais pas partie de ceux qui pensent que la tragédie est terminale pour la France. On vit une période compliquée, mais c'est comme tout l'Occident. Tout l'Occident est dans cet état-là aujourd'hui. Nous, simplement, c'est pire.
Oui, mais pourquoi dites-vous que cette tragédie a commencé en 1981? Vous décrivez la situation actuelle, mais vous dites, voilà, ça date de l'arrivée des socialistes au pouvoir, de l'élection de François Mitterrand. Certes, vous espérez un nouveau sursaut. Donc c'est le titre de votre
tout
premier
à fait.
Tome. Un sursaut est possible, nous verrons.
Ce qu'a fait De Gaulle en 1958, voilà. ça peut très bien recommencer.
Mais pourquoi? Qu'est-ce qui a commencé en 1981, François?
C'est très simple, c'est une politique économique absolument stupide. Mitterrand était un grand bonhomme, à plein d'égards. Et d'ailleurs, moi, c'est quelqu'un que j'aime, je ne me cache pas, je le dis, même si ça choque aujourd'hui. Mais c'est vrai qu'il y a eu cette idée idiote qu'il fallait à tout prix relancer l'économie par tous les moyens. C'est-à-dire que la dépense, c'était bien parce que ça provoquait de la croissance. Ben, on a vu le résultat. C'est-à-dire au contraire, toute l'économie s'est écroulée. C'est-à-dire l'idée débile, enfin, faut quand même imaginer ça. On va embaucher des fonctionnaires pour faire baisser le chômage. Enfin, bon, enfin, ça a été une catastrophe générale. Et à partir de là, heureusement, Pierre Mauroy, le Premier ministre, a fait faire le tournant de la rigueur en 1983. Sinon, on ne sait pas trop comment ça serait terminé.
Vous dites que c'est un conte de Noël keynésien qui a mal tourné.
Oui, c'était l'idée que c'est très simple. L'économie, c'est tout simple. Il suffit de dépenser. Donc, on a augmenté les dépenses publiques de manière inconsidérée. Mais ça continue.
Et ça relancera la consommation.
Et ça va relancer la consommation. La consommation populaire, évidemment, qui a fait les choux gras des produits chinois qui sont arrivés. Enfin, tout ça était grotesque, mal pensé, absurde. Bon, c'est vrai que Mitterrand avait beaucoup de qualités, mais on peut pas dire que l'économie, c'était son truc.
C'était son angle mort.
Ouais, et il s'était fait vraiment bourrer le crâne par une série de personnes, Fabius, Attali, etc. Et ils croyaient que ça allait marcher. Évidemment, ça a été le dessin. Et je veux dire, c'est à partir de là, puisque à partir de là, vous avez la gauche et la droite qui se relaient pour endetter davantage, qui dépensent, qui n'osent pas dire la vérité. Bon, il y a eu quelques exceptions. Je veux dire, d'une certaine manière, d'ailleurs, là, c'est vrai que la première cohabitation avec Chirac, 1986-1988, il y a eu des efforts qui ont été faits sur ce plan. Mais après, ça a été la grande dégringolade.
Jean-Louis Bourlange.
Oui, d'abord, je crois que Franz a raison de dire que la tragédie, c'est pas forcément tragique, si j'ose dire. C'est pas forcément désespéré. Mon maître en politique, c'est Raymond Aron. Raymond Aron, comme Max Weber, a toujours considéré que la politique était le tragique, puisque la politique, ça consiste à gérer le désaccord fondamental, le hiatus fondamental entre l'espérance et le possible. Et à partir du moment où on n'est pas habité par une idéologie progressiste qui postule que demain sera par définition, par essence, mieux qu'hier, soit de façon continue, comme le pensait Condorcet, soit de façon dialectique, comme le pensent les marxistes. À partir du moment où on pense pas ça, on vit la politique, et c'est d'ailleurs ça qui en fait à la fois le caractère très frustrant et le charme, d'une façon essentiellement tendue. Mais là où je trouve que vous avez raison à la Finkielkraut, c'est quand vous dites que dans le livre de Franz Olivier Gisbert, on débouche bien plutôt sur, alors là, une conception assez désespérante. Il vient de nous dire de façon très enthousiaste que c'est pas fini, qu'on verra, etc. Mais quand on lit le bouquin, effectivement, on est plutôt saisi par un vertige décliniste. Et je dis ça sans aucune nuance péjorative. On a le droit d'être décliniste sans être horriblement réactionnaire. Ça n'a rien à voir. Et alors là, je crois qu'il y a quand même quelque chose dans lequel je souscris pleinement dans son livre. C'est quand il parle de la rupture de 81. Et je crois que là, Franz-Olivier Gisbert, vous êtes trop réducteur quand vous parlez du rêve keynésien de Mitterrand. Mitterrand se fichait de l'économie comme de son premier colmarin. Ça l'a jamais intéressé, ni de près ni de loin. Il croyait effectivement que quand ça n'allait pas, on mettait de l'argent dans le système et ça repartait. Il l'avait dit à peu près comme ça. C'était un keynésien de bêtième préparatoire. Mais au-delà de ça, je crois qu'il y a une différence très profonde entre les trois premiers présidents de la Ve République, De Gaulle, Pompidou et Giscard, quelles que soient leurs différences, c'était des gens qui prenaient le pouvoir pour changer, pour réaliser un dessein qui leur était propre. Et le but était premier, et ensuite les concessions politiques, plus ou moins complètes, étaient destinées à favoriser ce but. À partir de 81, on a une inversion du système. Les hommes politiques sont, c'est vrai de Mitterrand, c'est vrai de Chirac, c'est vrai de Sarkozy, c'est vrai de Hollande, sont principalement tournés vers la conquête du pouvoir, et ensuite, ce qu'ils font de réaliste vise à faire que quand même la satisfaction qu'ils donnent aux populations évite au pays de verser complètement dans le fossé. Donc on a une inversion totale. Alors c'est dissimulé entre 81 et 83 par les vestiges du programme commun auquel Mitterrand ne croit pas, mais auquel il est obligé de sacrifier quelque temps. Et après, on est vraiment dans ce que l'autre appelait l'empirisme organisateur ou l'empirisme désorganisateur. Et on n'en est pas sorti jusqu'à Macron qui pose d'autres problèmes. Et donc je crois que vous avez raison de signaler qu'il y a une rupture profonde entre ces deux périodes de la Ve République, une période de construction nationale, industrielle, et libérale et européenne, industrielle pour Pompidou, libérale et européenne pour Valéry Giscard d'Estaing, et après, avec quand même, chez Mitterrand, passé l'épisode du programme commun, quelque chose qui ressemble à un fond de conviction ancienne pour l'Europe, où on voit bien que s'il y a quelque chose qui guide son action, c'est quand même l'acte unique européen, c'est quand même le marché intérieur, c'est quand même la réalisation, l'entente franco-allemande, l'accord avec Kohl.
Oui, dans l'intérêt de la France.
On sent qu'il y a quand même quelque chose de très profond en lui et qui renvoie d'ailleurs à son expérience de jeune homme, quelles que soient les attitudes qu'il a eues avant la guerre ou pas. C'est un homme qui était habité par le danger franco-allemand, et ça reste quand même une ligne de force. Mais pour le reste, on est vraiment dans, alors, ce que Jacques Delors, auquel le président a rendu hommage vendredi, on est dans ce que Jacques Delors appelait le pratico-pratique et Sartre le pratico-inerte.
Alors oui, vous dites cela, mais d'un autre côté, vous parlez à un moment donné de votre livre, Franz-Olivier Gisbert, de l'épisode Chirac, et vous dites que l'échec de la réforme des retraites et l'obligation justement de ne pas réformer les régimes spéciaux a paralysé Chirac. Vous dites qu'il est devenu, à partir de 1995, un président malheureux et impotent. Donc il avait un désir de réforme très fort, et une partie de la société française s'y est très violemment opposée. Donc il faut aussi compter avec les résistances de cette société à la volonté d'agir des responsables politiques. François-Olivier Gisbert.
C'est vrai que Chirac, il se passe quelque chose en 1995, après son élection. Il arrive au pouvoir, je dirais presque triste, usé, mélancolique. Cette histoire de grève, la France s'est arrêtée, faut bien voir, pendant plusieurs semaines, parce que il y avait, dans cette réforme de la sécurité sociale, enfin à côté, il y avait l'idée de réformer les régimes spéciaux, notamment ceux de la SNCF et de la RATP, où l'on partait à la retraite à 50 ans. Bon. Et je me souviens très bien, moi j'avais écrit à l'époque des papiers pas très sympas sur pourquoi le gouvernement avait cédé, c'était incompréhensible sur le papier. Bon, j'étais pas aux affaires, hein. Quand on est journaliste c'est facile. Et je me souviens qu'il était très blessé, qu'il revenait sans arrêt. J'ai découvert ça d'ailleurs en travaillant sur le livre. Et dans tout ça, était dans des mal, j'avais complètement oublié qu'il m'avait raconté ça. Je tenais mon journal à l'époque et je lis ces choses horribles sur la France, effectivement, où il dit ce peuple, ah il veut le déclin, il l'aura, il lui pend au nez. Enfin, Chirac était lucide. On peut dire tout ce qu'on veut de Chirac, il était lucide. Et même en travaillant, ça, en prenant du recul pour raconter cette histoire de la cinquième, enfin cette histoire de la cinquième, puis en même temps aussi tous les mouvements du monde et puis plein d'autres choses. Parce que j'essayais de faire un truc un peu, comment dire, où l'on parle aussi bien des chansons que des livres et qu'on a lus pendant cette époque. Et ben, j'ai découvert quand même que Chirac, entre 1986 et 1988, comme je disais tout à l'heure, il a fait des choses. Même si c'était masqué par l'affreuse histoire de Malik Houssikine.
Oui, Jean-Yves Bollange.
Oui, je suis en désaccord avec ce que vous venez de dire, Alain Finkielkraut, sur Chirac. Je pense que c'est une construction, c'est vraiment, la campagne de 95 est une imposture. C'est-à-dire...
La fracture sociale, c'est ça?
Oui, la fracture sociale, elle a été conçue et conduite avec un talent absolu, une réussite complète. Balladur était un homme qui avait compris qu'il fallait faire des changements, qui avait en même temps compris, parce qu'ils avaient perdu le pouvoir quelques années plus tôt, à cause d'une option libérale qu'il avait lui-même soutenue, qui avait compris que, oulala, c'était chaud, et qu'il fallait le faire très prudemment. À ce moment-là, Chirac dit quoi? Chirac dit quelque chose de très, très, très politicien, très français d'ailleurs, dit, non, non, la réforme, il faut la faire large, généreuse, absolue. Nous en avons assez de cet immobilisme bourgeois, etc. Donc, il réveille des attentes, etc. Et en réalité, il ne propose rigoureusement rien. Le seul qui propose quelque chose, et il se fait immédiatement démentir, c'est Alain Madelin, dans la campagne Chirac, qui dit « Oui, il faut modifier la sécurité sociale, arriver à responsabiliser les gens, arriver... » Non, non, Chirac dit rien de tout ça. Sa ligne fondamentale, c'est la ligne qui est définie par Madame Hubert, sa ministre, qui est de dire « on ne change rien ». Et à la sécurité sociale, et on rentre à ce moment-là dans ce travers extrêmement français, qui est de dire on va tout changer, de manière à ne rien changer, c'est pas Tancrède, c'est quelque chose de tout à fait... Et alors, en revanche, là où je comprends le souci exprimé par Franz, c'est le fait qu'en septembre, Chirac avoue. Il avoue, il dit, c'est plus compliqué, c'est plus difficile. Mais il avait déjà anticipé, en nommant Juppé plutôt que Seguin. Juppé était l'homme d'un baladurisme conséquent, et Seguin était l'homme d'une rupture que Chirac n'a pas voulu. Et à ce moment-là, Juppé propose cette réforme très brillante, je me rappelle, cette réforme de novembre.
Il a été applaudi par toute l'Assemblée.
Applaudi, par la gauche. Applaudi par
alors, attends, oui. Parce que là-dessus, un petit détail quand même,
oui,
c'est que cette réforme de la sécurité sociale a été faite en commun accord avec la CFDT,
oui.
Avec la CFDT, c'est-à-dire avec une partie des syndicats.
Absolument.
Et aussi un peu de force ouvrière. Et je me souviens très bien qu'à l'époque, dans la presse de gauche, cette réforme a été applaudie. Applaudie dans le Nouvel Observateur, oui. Et je crois même aussi dans Le Monde. Enfin bon, bref. Avant la catastrophe syndicale.
De décembre.
Parce que, en décembre, en fait, il avait été rajouté, toujours la même histoire, l'histoire des retraites. Donc, c'était pas une réforme de droite.
L'histoire des retraites sur,
voilà, c'est ça, sur les agents roulants de la SNCF.
Oui, oui.
Et tout le système a été bloqué pour ça. Et d'ailleurs, cette réforme de la sécurité sociale, elle a été appliquée après. La seule chose qui a été retirée, c'est la réforme des retraites.
Mais
des régimes spéciaux de la SNCF et de la RATP.
Mais le charme était brisé et Chirac n'était plus branches. Assis. N'était plus assis sur
ça,
une perspective politique.
Et, il avait
et donc, il est allé
c'est
à la dissolution.
Voilà, il est allé avec ce qui s'ensuit. Mais alors, je reviens sur le mot de tragédie. Vous dites, Jean-Louis Bonange, le tragique, c'est effectivement, c'est la politique elle-même. Donc, il ne faut pas pleurer. Ce n'est pas forcément la situation désespérée. Mais peut-être l'est-elle quand même, parce qu'il y a un élément très présent dans le livre de François-Olivier Gisbert, c'est ce qu'il appelle le grand dérèglement migratoire. Et là, vous citez, François-Louis Gisbert, une conversation inouïe que je connaissais entre Jean Daniel et François Mitterrand. Jean Daniel, prenant son courage à deux mains, dit à Mitterrand que l'intégration ne marche pas. Et Mitterrand refuse de l'entendre. Alors, Jean Daniel insiste, le pays est en train de changer, le clocher de votre affiche électorale, célèbre affiche électorale de 81, dans peu de temps, vous le verrez entouré de minarets. Et à ce moment-là, Mitterrand, abrupt, clôt la conversation, vous parlez comme Le Pen. Mais pourquoi ?
Colombé de Mosquée, oui.
Mitterrand. Mais oui, bien sûr. Les propos de Jean Daniel rappellent ceux du général de Gaulle, que vous citez aussi Franz-Olivier Gisbert, dans Le Sursaut. C'est-à-dire, Mitterrand dit, si ça continue, mon village ne s'appellera plus Colombey et les deux églises, mais Colombey et les deux mosquées. Il n'aime pas le terme d'intégration. Essayez d'intégrer de l'huile et du vinaigre, agitez la bouteille, au bout d'un moment, ils se sépareront de nouveau. Les Arabes sont des Arabes, les Français sont des Français. Vous croyez que le corps français peut absorber 10 millions de musulmans qui demain seront 20 millions et après-demain 40. Il refuse de parler.
Il parle à l'imperfite et c'est dans une optique de refuser le projet d'Alain Perfit qui était de garder la moitié de l'Algérie.
Voilà,
c'est dans un projet de décolonisation en disant oui. Ça ne va pas, il faut faire la parthénogenèse.
Il parle aussi du projet d'Algérie française d'intégration. Il dit l'intégration, ça donnera la possibilité aux Algériens de s'installer en France quand ils le veulent. Et ça, ce n'est pas possible. Donc on retrouve Colombel et de Mosquée en 1959, votre église entourée de deux minarets de Jean Daniel. Et en même temps, l'immigration a continué. Il y a eu 29 lois pour contrôler les flux migratoires. On en est à la dernière aujourd'hui, qui suscite une opposition violente, oui. Extrêmement violente.
Et en même temps, des lois qui ne servent à rien.
Des lois qui ne servent à rien, puisque l'immigration continue. La question qu'on peut se poser, est-ce qu'au bout du compte, si on n'arrive pas à contrôler nos frontières, la France restera la France, c'est-à-dire la continuité historique du peuple français peut-elle être assurée dans ces conditions ? François-Olivier Gisbert, c'est alors là qu'on peut éventuellement parler de tragédie.
Je réponds carrément non. Voilà. Non, bien sûr. Ben, c'est évident. Au départ, la France est une terre d'immigration, il ne faut jamais oublier. Je cite toujours le début de l'histoire de France, du magnifique livre de Jacques Bainville, qui était un peu le bras droit de Charles Maurras, mais qui lui n'était pas antisémite d'ailleurs, l'un des grands hommes de l'Action française. Il était Dreyfusard, oui.
Enfin, il a été discrètement Dreyfusard.
Oui, d'extrême droite. Il était quand même d'extrême droite, enfin, puisqu'il était à l'Action française, Jacques Bainville. Et c'est vrai que dans cette introduction, il y a quelque chose de merveilleux sur la définition du peuple français. Il dit c'est un composé. Pourquoi ? Parce que la France est un isthme. Les peuples arrivent de partout, ils sont coincés entre les Alpes, les Pyrénées, les mers, et là, ils se retrouvent ici, en France. Et c'est vrai que nous avons inventé l'assimilation, il y avait jusqu'à présent une intégration qui marchait, et ce que vous dites, Alain Finkielkraut, c'est que, effectivement, avec les flux absolument incontrôlés qu'il y a aujourd'hui, il ne peut plus y avoir non plus d'assimilation, personne n'en parle parce que c'est fini,
même
pas d'intégration, c'est-à-dire on empile, et on est devenu aujourd'hui, on le voit très bien, un pays communautariste. Et ça, il est encore temps d'arrêter, mais ça se passe au niveau des institutions judiciaires, c'est-à-dire du Conseil d'État qui s'est arrogé, approprié la politique migratoire en France avec l'histoire de regroupement familial. C'est pas Giscard qui nous a mis le regroupement familial, contrairement à ce qui est souvent écrit. C'est le Conseil d'État. Et puis ensuite, la Cour de justice européenne qui fait que quand on arrive en Lampedusa ou ailleurs, de toute façon, c'est la libre circulation, y compris quand on est en France. Et avec ce système-là, évidemment, on ne peut... Moi, si vous voulez, je ne suis pas contre l'immigration, bien entendu. On a besoin d'immigration. L'époque que vous racontez, d'ailleurs, c'était une période... Vous vous souvenez, le début des grandes vagues migratoires dans les années 80, tout le monde était favorable. Bon, il y avait Le Pen, c'est vrai, il y avait la montée de Le Pen d'un côté, mais dans l'opinion générale, il y avait, souvenez-vous, les grands chanteurs, là, Khaled, Rachida, tous ces Michel Sardou qui chantait musulmane, Jean-Jacques Goldman là-bas, vous vous souvenez de tout ça ? Bon, il y a une espèce de grand mouvement qui était naturel. Simplement, il y avait un problème. Vous parliez de Jean Daniel, dont je suis un peu le fils prodigue. C'est parce que c'est vrai qu'il m'emmenait partout. Il voyait bien que si je me laissais aller, je serais devenu immigrationniste. Et il m'emmenait comme ça. Je souvent voir le grand Claude Lévi-Strauss, qu'il admirait comme moi d'ailleurs, et qui tenait sur l'immigration des propos absolument prophétiques. Hein, parce que je pense que
il parlait de seuils de tolérance, notamment.
Voilà, les seuils de tolérance. Oui. On a dit que Mitterrand les avait utilisés. Je suis même pas sûr qu'il employait ce mot. En tout cas, c'est sûr, c'est que les seuils de tolérance, c'était la grande phrase de Claude Lévi-Strauss.
Jean-Louis Bourlange.
C'est un immense problème que vous posez. Je crois d'abord que l'identité française n'est pas du tout ennemie. Et c'est un peu la phrase de Mainville, parce que Mainville dit ça à propos de César. En fait, il dit voilà.
C'est tout au début. Oui, la France est un. Mais c'est un composé.
Mais à partir. Il dit que la France est faite de l'invasion italienne.
Oui, mais quand même. Excusez-moi, mais l'immigration massive, l'immigration de travail, c'est la deuxième tiers du 19e siècle. Il y avait une grande homogénéité en France.
Absolument.
Quand même,
mais
il ne faut pas l'oublier.
Je fais référence à la phrase de Mainville. Mainville dit, Vercingétorix, c'est très bien, mais sans les Gallo-Romains, ça n'aurait pas marché. Bon. Mais là où je crois qu'il faut quand même être bien conscient que l'ensemble de l'histoire française, depuis, comme vous le dites, Alain Finkielkraut, depuis le début du 19e siècle, est faite, notamment l'ensemble de l'aventure industrielle française, est faite à partir de l'immigration. Pour une raison qu'a très bien mise en lumière Gérard Noiriel, c'est-à-dire que la Révolution donne le pouvoir aux paysans, les paysans s'accrochent à leurs terres, à la différence des Britanniques ou des Anglais, où ils sont chassés dans les mines et les usines textiles. Là, l'industrialisation manque de bras. C'est pas l'agriculture qui manque de bras, c'est l'industrie. Et on a un épisode complet. D'abord les Belges,
les Polonais.
Ensuite les Italiens, les Polonais bien après, ensuite les Italiens avec les difficultés, aigues mortes, etc., les pogroms, ensuite les Polonais, aller-retour, aller dans les années 20, retour dans les années 30, on avait reproché à Bertrand Jouvenel de s'être associé à ces mouvements, et ensuite les Européens du Sud, sous la 4e République, espagnols et portugais, et alors là, ce qui se passe dans le moment que nous décrivons, c'est trois facteurs aggravants. Premièrement, un éloignement des zones de départ. On fait affaire à des arabos musulmans ou à des Africains de plus en plus musulmans. Et donc, on a déjà une difficulté anthropologique beaucoup plus grande à favoriser l'assimilation. Deuxièmement, on a un modèle qui est complètement à bout de souffle en termes d'intégration, avec la crise de l'école en particulier, qui est au cœur de cet échec. Et troisièmement, on a eu, et ça c'est quand même quelque chose de fondamental, c'est l'effondrement démographique de l'Europe. Nous sommes dans une Europe où il n'y aura pas, d'ici un siècle et demi, il n'y aura plus d'Espagnols, plus d'Italiens, plus d'Allemands et quelques Français. Nous sommes donc face à une situation où l'immigration devient nécessaire. Et alors là, sur ce fond d'impuissance administrative totale, on n'arrive absolument pas à la gérer. Et là, c'est une tragédie.
Mais je crois qu'on est d'accord, en fait.
Oui, on
est d'accord, c'est-à-dire parce que de toute façon, on a besoin d'immigration. Personne ne dit le contraire. Et la France, je le répète, c'est un composé. En même temps, je suis désolé, c'est un mot qui vous plaît, c'est une expression qui vous plaît. En même temps, ça vous rappelle quelqu'un.
Mais j'observe
que la chute de l'Empire romain a quand même commencé en 212.
Avec des invasions barbares.
Non. Oui, enfin, mais surtout l'édit de Caracalla, qui d'ailleurs favorise les invasions barbares, ce qu'on a appelé les invasions barbares. L'édit de Caracalla de cet empereur despote affreux, etc., qui a décidé qu'il n'y avait plus besoin de quoi que ce soit pour devenir romain. Il suffisait d'arriver, on devenait romain, il n'y a plus besoin de faire comme auparavant
de César,
20 ans d'armée. Vous voyez, c'était fini.
César,
oui, mais enfin
qui
bon.
C'est cassé par Auguste, en fait.
Mais enfin, c'est là le début de la fin. La chute arrive après en 476.
On aura toujours besoin d'immigration pour des raisons démographiques. Je suis pas sûr personnellement d'accord avec ça. D'abord,
il y avait un problème démographique.
Le Japon réagit autrement à cette question démographique.
Un effondrement total de la puissance japonaise qui était considérée comme la grande menace en des années 90
je suis désolé parce que là on a la désindustrialisation avec l'immigration. Non mais voyez ce que je veux dire. Je me permets de vous répondre ça parce que on peut pas dire que le bilan des dernières années enfin, ou des dernières décennies, disons, soit remarquable.
On revient à votre critique sur Mitterrand, qui est très juste.
Oui, mais enfin, c'est la critique de tous les autres aussi.
Quand même.
Oui, Mitterrand, Chirac, tous, d'accord.
D'accord, mais quand même, on est obligé de tenir compte de ce qui se passe. La communautarisation, la désintégration du territoire, c'est la phrase de Gérard Collomb, quand même.
Ah oui,
ils sont côte à côte, ils vont bientôt être face à face, et le face à face a commencé. Or, aujourd'hui, quand on pose la question, on est immédiatement frappé d'infamie, taxé de racisme.
Mais ça, c'est le problème français, vous savez, c'est le déni. C'est le grand problème. Oui, d'ailleurs, tout de suite, on vous insulte, vous êtes décliniste.
Oui. Mais
non, moi, je suis pas
d'ailleurs. Si on n'était que décliniste, on est raciste.
Mais le gros problème, c'est le déni. Tous ces problèmes, on ne doit pas les aborder.
On ne doit pas les aborder. Alors, je lis entre deux mises au pilori de Gérard Depardieu dans Le Monde, une tribune d'Hillel Rapoport, un économiste, l'immigration est un atout stratégique fondamental dans la compétition économique internationale.
Oui, ça s'appelle le bourrage de crâne, ça.
Oui, c'est étonnant. C'est-à-dire, il y a une double argumentation. L'argumentation humanitaire, il faut s'ouvrir, et l'argumentation économique, la raison calculante. Donc, voilà.
Il ne s'agit jamais d'arrêter l'immigration. C'est-à-dire, dans le débat qu'on a, et Jean-Louis Bourlange sera d'accord avec moi, c'est de dire juste, il faut contrôler pour intégrer.
Mais
attendez. C'est aussi bête que ça. Ça a toujours fonctionné comme ça. Aujourd'hui, il n'y a plus de contrôle et il n'y a plus d'intégration.
Par exemple, il n'y a plus de contrôle, il n'y a plus d'intégration, une certaine impuissance politique, c'est à cela que je voulais venir, qui a quelque chose de tragique et qui peut-être favorisera au bout du compte l'arrivée au pouvoir de Marine Le Pen, puisque la droite et la gauche n'ont pas réussi à régler le problème. Mais surtout, par exemple, vous ne pouvez pas aujourd'hui, Jean-Luc Bourlange, parler de préférence nationale. Le mot même fait hurler. Alors là, je vais vous lire une phrase. « Comment les hommes l'aimeraient si leur patrie n'est rien de plus pour eux que pour les étrangers et qu'elle ne leur accorde que ce qu'elle ne peut refuser à personne ?» Qui a dit ça ? Jean-Jacques Rousseau. Ni Barrès, ni Maurras, mais Jean-Jacques Rousseau. Or, on ne peut plus le dire. C'est comme si la distinction entre autochtones et étrangers était une atteinte aujourd'hui à l'égal des dignités des personnes. Et on se réfère pour cela au mauvais accueil fait aux immigrés juifs pendant l'entre-deux-guerres. Moyennant quoi, l'antisémitisme importé se développe et s'épanouit aujourd'hui en France. C'est quand même une situation terrible. Et surtout, je suis frappé par l'impuissance des politiques face à un phénomène qui modifie complètement le visage de notre pays. Jean-Louis Bourlange.
Oui, je pense que vous avez tout à fait raison l'un et l'autre d'évoquer le déni. Nous sommes dans une situation de déni par rapport justement aux conséquences, à la triple modification que j'ai évoquée tout à l'heure par rapport au courant historique de France terre d'immigration. Nous sommes dans une attitude de déni. Je crois que c'est absolument indiscutable et c'est tout à fait exact que c'est ça qui fait le lit de Madame Le Pen.
C'est le président de la Commission des Affaires étrangères qui nous dit ça.
Oui, mais je l'ai écrit.
Vous avez raison de rappeler son titre. Je l'avais pas fait. Jean-Louis Bourlange.
Je l'ai, non pas important, mais effectivement placé dans une situation d'observation qui permet de voir ce que vous voyez aussi de façon assez quotidienne. Mais le problème, il est quand même d'une nature tout à fait impressionnante. Il y a deux problèmes. Il y a l'intérêt économique de nos pays. Est-ce que nous avons intérêt à une immigration limitée, contrôlée ? Il y a de grands pays comme l'Allemagne, comme le Canada, qui répondent oui et qui organisent la chose. Qui organisent la chose en veillant à ce que les immigrés apprennent la langue, se comportent bien.
Aillent où on veut qu'ils aillent au départ.
Oui, etc. Enfin, il y a tout un ensemble de choses qui sont... Et là, on voit bien que nous sommes incapables non seulement de... c'était un peu l'idée de Darmanin, et de ce point de vue-là, elle était bonne dans sa loi, même si les modifications qu'il porte sont extrêmement homéopathiques par rapport à la réalité des besoins. Et puis, il y a ce problème de savoir comment contrôler les frontières. Et ça, c'est quand même quelque chose, ça ne relève pas simplement les juridictions ont leurs responsabilités, je suis d'accord, qu'elles soient européennes ou françaises, Conseil d'État, etc.
La jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne.
Et je crois que ce qu'écrit Franz-Olivier Gisbert dans son livre, ce qu'écrit Eric Schuttel dans le sien, sont des choses qui sont vraiment fondamentalement dignes d'être méditées. Nous avons un écart, un déséquilibre entre le pouvoir judiciaire et le pouvoir politique. Et
le pouvoir judiciaire qui piétine aujourd'hui la souveraineté populaire. Il faut que la politique reprenne la main, on est bien d'accord.
On a un problème d'impuissance administrative. Au-delà des politiques, je ne sais pas comment on peut, actuellement, qui a jamais pu s'opposer à des vagues migratoires. On a amené des politiques, on a critiqué ce qu'on a fait avec la Turquie, ce que Mme Merkel avait suggéré de faire avec la Turquie, ce qu'on a fait, qui me paraît une excellente idée, c'est-à-dire les réfugiés syriens, moi je suis contre l'adhésion de la Turquie à l'Union européenne, ça n'a rien à voir d'ailleurs comme phénomène, mais le fait que les Turcs prennent en main plusieurs centaines de milliers de Syriens, ça mérite qu'on paye. Ça mérite qu'on les aide, quel que soit ce qu'on pense de M. Erdogan. C'est un autre problème. Donc on a tout cela à faire, mais actuellement, le système, c'est qu'on ne peut pas bloquer un immigré. Les histoires de QTF, de retour à la... C'est des trucs qui n'existent pas en termes statistiques. Ce qui existe en termes statistiques, c'est les 6 ou 7 millions de Français d'immigrés ou d'étrangers d'origine étrangère, musulmans pour une grande partie d'entre eux, mal intégrés, et le flux continu de gens que...
500 000 par an, c'est quand même beaucoup.
De gens qu'on ne peut pas contrôler, qu'on n'arrive pas à contrôler, parce qu'il faudrait les arrêter à la frontière, les bloquer pendant un certain nombre de mois et ensuite instruire leurs dossiers en termes de droit d'asile, etc. Et ensuite les renvoyer. Les renvoyer où, comment, etc. C'est un véritable casse-tête administratif. Et c'est là où nous sommes dans la tragédie.
Alors, si nous sommes dans la tragédie, on pouvait aussi citer le Danemark qui a réduit de manière assez drastique l'immigration par des mesures comprises... Les sociodémocrates, oui. Il ne faut pas l'oublier.
Oui, parce que moi, je ne crois pas du tout à l'impuissance du politique. C'est pour ça que je reste optimiste. Parce que je pense qu'aujourd'hui, c'est vrai, je suis d'accord avec la description que nous fait Jean-Louis Bourlange, aujourd'hui, on ne peut rien faire. Mais je pense que si la le pouvoir politique, si les politiques décident de prendre en main les choses, ils peuvent reprendre main.
Regardez Mélanie.
Excusez-moi, on est dans un cadre européen. De toute façon, Mélanie, qu'est-ce qu'elle peut faire à part faire des grandes déclarations qui ne servent à rien? Je répète, la jurisprudence de la Cour européenne de justice fait que... De toute façon,
mais elle pourrait s'affranchir.
Elle ne peut pas s'affranchir.
Il faudra qu'il le fasse.
Mais elle ne peut pas.
Elle le fait pas parce que économiquement, elle a besoin des immigrés.
Vous savez très bien qu'il y a une négociation de gros sous avec la Commission. Enfin, tout ça, c'est.
En tout cas, et il est vrai que les diverses cours suprêmes ne rendent pas la chose facile. Vous citiez Schuttel, Jean-Louis Bourlange. Il parle quand même de l'inscription du principe de fraternité. Le principe constitutionnel de fraternité a été...
Qu'est-ce que ça a à voir avec la Constitution ?
Oui, mais c'est très intéressant. Justement, il a été invoqué pour interdire aux législateurs d'ériger en délit, dès lors qu'elles poursuivent des fins désintéressées, l'aide à la circulation des étrangers en situation irrégulière. C'est ainsi... dit-il que le troisième élément de la devise républicaine s'est retourné contre la souveraineté nationale. Mais venons-en maintenant...
Il y a une dilatation des moyens de droit qu'on a opposés à l'État. Schuttel le décrit très minutieusement et très bien, qui sont évidemment incroyables. L'exemple le plus frappant, c'est poursuivre des premiers ministres face au Covid pour avoir, quelle est l'expression exacte, porté... mise en danger de la santé publique, ce qui est évidemment un délit totalement intentionnel, c'est Marie Bénard qui est visée.
Les amendes infligées au Conseil d'État avec tout cet argent qui est versé à des associations, dont celle de Cécile Duflot, tout ça aux frais du contribuable. Enfin, il faut que le Conseil d'État arrête ses plaisanteries quand même, donné. Quoi.
Alors, venons-en quand même, maintenant, pour le temps qui nous reste, au dernier président en date, le nôtre. Franz-Olivier Gisbert, dans votre livre, vous êtes sévère avec tout le monde. Mais vous avez de l'admiration, de la tendresse, de l'indulgence,
de la compréhension
pour les différents présidents de la République. Avec Emmanuel Macron, le frivolet, vous êtes impitoyable. Alors, pourquoi cette sévérité. Que lui reprochez-vous, Franz-Olivier Gisbert ?
Beaucoup de choses. Je dirais, d'abord, moi, c'est vrai que j'ai pas été séduit par Emmanuel Macron, par sa campagne de 2017. D'abord, pour une chose qui me paraissait honteuse, c'était « je vais supprimer la taxe d'habitation ». C'est un scandale total. Je vous dis, il prend vraiment les gens pour des cons. Voilà. Non, mais je dis vraiment, il prend les Français pour des cons et ça a marché. Et d'ailleurs, après, il a continué à les prendre pour des imbéciles pendant à peu près... Enfin, on peut citer un certain nombre de mesures.
Baisser des impôts soit nécessairement prendre les gens pour
non,
des
mais
imbéciles.
Mais attendez, mais évidemment, il fallait...
Je suis d'accord avec vous, c'est totalement inopportun.
Mais attendez, on est d'accord, il faut baisser les impôts. Mais simplement, là, d'abord, c'est pas les impôts de l'État, ce sont les villes, qui sont, enfin, tous les territoires qui se sont retrouvés dans des positions parfois extrêmement compliquées. Tout ça, c'était pas... correct. Et simplement, pourquoi je suis sévère, c'est très simple, c'est que, je dis, c'est un président, le président Narcisse. Le président Narcisse se regarde tout le temps dans la glace, parle tout le temps d'ailleurs, enfin c'est une sorte de Fidel Castro, c'est-à-dire il est à la télé tous les soirs pour faire de nouvelles déclarations, un jour il dit quelque chose, et après il va dire le contraire, il met Blanquer, après il met Papandreou. Mais non, mais c'est un peu, si vous voulez, et sur tous les sujets, et alors c'est le en même temps, hein, on parlait tout à l'heure du en
il
même
est
temps.
Le chèvre choutif.
Mais oui, c'est le chèvre choutif, ça c'est une expression belge que j'adore, parce que les Belges, comme les Québécois, ont toujours des expressions française qu'il faut reprendre, et le chèvre choutisme, ça lui va bien. Pourquoi ? Parce que en même temps, c'est pas un problème d'intelligence, c'est je ne prends pas de risque. Je suis d'accord avec tout le monde, et vous le voyez très bien. Il y a une femme avec un voile, un jour on l'a vu comme ça, mais c'est formidable le voile. Après, une femme sans voile, il va dire c'est très bien. C'est comme ça, on ne gouverne pas comme ça. Et je pense toujours à ces phrases du général de Gaulle, quand il essayait d'apprendre la politique aux siens, ça se pense, c'est dans l'extraordinaire journée de Jacques Foccart, où il dit sans arrêt « gouverner, c'est être dur ». Mais c'est ça, gouverner, c'est aussi être dur, dire des choses compliquées.
Lui, il est trop plastique pour vous.
Mais,
il est pas dur, il est plastique.
Mais non, mais attendez, mais on est complètement, c'est le gouvernement de la com. Et je ne comprends pas d'ailleurs que ça puisse plaire autant, j'en suis pas sûr d'ailleurs, au président
de la commission
des affaires étrangères de l'Assemblée nationale.
Que nous avons avec nous, et que nous allons en profiter.
Qui est un grand intellectuel aronien. Et là, on est vraiment descendu dans la com, quoi. La com au jour le jour, parce qu'en plus de ça, évidemment, il y a le court terme. Parce que c'est vraiment toujours à court terme. Hein. Ouais. On est le nez sur le...
J'avais raison, il est impitoyable. Jean-Louis Bourlange.
Oui, je suis un défenseur tout à fait conséquent du « en même temps ». J'avais d'ailleurs soutenu cette notion. Non, c'est pas courageux. Ça me paraît s'inscrire dans la tradition fondamentale de la République française. Le « en même temps », c'est la République modérée des débuts de la Troisième République. C'est Jules Ferry, Waldeck-Rousseau, le souci de trouver un équilibre entre la droite conservatrice et les Jacobins. C'est la base... du radicalisme qui effectivement essaie de créer avec plus ou moins de succès Mendès France notamment, vraiment homme de gauche qui a fait un gouvernement très largement à droite avec Christian Fouché par exemple, c'est la leçon fondamentale du gaullisme. Je vous rappelle ce que dit De Gaulle à Michel Droit: la France ce n'est pas la gauche, la France ce n'est pas la droite, la France c'est la gauche et la droite. C'est la même, c'est évidemment l'éthique fondamentale du centrisme. Et je crois qu'on ne gouverne pas la France de façon hémiplégique. On ne gouverne pas la France droite contre gauche ou gauche contre droite. Mais là...
Comment pourrais-je être en désaccord là-dessus?
Là où je suis.
Je suis d'accord avec vous.
Là où je suis.
Pas
non,
le sujet.
Mais laissez-moi finir mon argument.
Vous êtes tellement brillant que vous répondez hors sujet.
Non, mais je réponds pas hors sujet, je vous dis ça. En revanche, le reproche qu'on doit faire, notamment ces derniers temps, et l'exemple que vous avez donné de la succession des deux ministres de l'Éducation nationale, les trois maintenant, c'est que l'en même temps, c'est très bien. Ce qui n'est pas bien, c'est le successivement.
Donc et ça, c'est les sincérités successives,
on a eu un mouvement oscillatoire ces dernières années qui est effectivement extrêmement troublant pour l'opinion. Donc moi, je combats le successivement et je réhabilite le en même temps.
Oui, mais quand c'est en même temps pour une femme voilée et contre la baïa. Là, c'est dû en même temps. C'est pas simplement les deux moitiés de la France qu'il faut savoir réconcilier. Ce sont des optiques, des perspectives, des idéologies.
Ça s'appelle contraires. De la démagogie. Ça s'appelle non, de la démagogie.
Là, le problème du voile, ouais, à quel moment on met la frontière, etc. C'est une discussion qu'on a depuis 30 ans, etc. Le problème, c'est de savoir si on mène une politique. Mais c'est pas ça. Je vais vous répondre sur le fond, sur le macronisme. C'est ce qui est fondamental dans le macronisme. C'est effectivement le choix européen. Ça, c'est un... Alors, je suis d'accord avec ce que vous dites sur le côté un peu léger, un peu tirant tous les cœurs avec soi, etc. Là, ce que vous appelez la politique de communication, encore qu'il vaille mieux quand on est en politique plaire que déplaire. Et il essaie de plaire, parfois il déplaît. Mais ce qui est fondamental, les deux choix fondamentaux qui fait que je suis très très fidèle à cette ligne politique, c'est l'idée que les valeurs, les principes de l'Europe occidentale sont et de l'Occident en général, sont profondément menacés. Menacés par l'islamisme, menacés par le poutinisme, menacés par le trumpisme, menacés par le wokisme de gauche qui est dominant, le wokisme d'extrême droite comme celui de Zemmour, qui est de même nature d'ailleurs. Tout ça, il y a un corpus qui est le corpus français. Ce que vous dites d'ailleurs très bien quand vous attaquez dans votre livre, Franz-Olivier Gisbert, Rousseau. Je partage tout à fait votre critique de Rousseau et il faudrait dire aussi du bien de Montesquieu, de Benjamin Constant, etc. Enfin, tout ça est fondamental. Là, il y a un socle qu'il faut défendre, que l'extrême droite attaque, que Mme Le Pen ne défend absolument pas, notamment vis-à-vis du poutinisme, que l'extrême gauche martyrise de son côté. Ça, c'est important. Et la deuxième idée, c'est qu'on ne peut le défendre qu'à la condition d'unir les forces des Européens. Alors, c'est très difficile, mais ce double choix de l'union des peuples européens et de la défense des valeurs fondamentales qui sont les nôtres, je crois que c'est quelque chose dont l'espace central en politique a aujourd'hui le monopole.
Et écoutez, vous êtes un très bon avocat, Jean-Luc Bourgeange. Vous devriez être ministre. C'est moi qui le dis.
Vaut mieux être magistre, comme dit, je me rappelle ce que disait Capitan, il faut distinguer les ministres et les magistres. Moi, j'aurais bien aimé être magistre, mais là, vous me proposez que d'être ministre. Je préfère rester citoyen et parlementaire.
Ouais, enfin, sauf si c'est premier ministre.
Alors, j'ai beaucoup aimé votre plaidoyer pour l'Europe.
J'étais fort. Hein.
Oui, oui, très bien, très bien. Vous débrouillez très, très bien. Le problème, c'est que je pense que cette Europe, pour laquelle je souscris totalement, moi, je suis européen comme vous, mais je pense qu'il faut la réinventer. Il faut la repenser.
Oui, oui.
Ça ne va plus, ça ne marche plus à tous les niveaux. Et si vous voulez, dans...
Peut-être s'inspirer de De Gaulle, d'ailleurs.
Ben exactement, parce l'Europe que des l'Europe des nations, pas c'est pas si mauvais.
Autant il faut la refonder, autant l'idée fédéralisme. Trouver des systèmes institutionnels communs, c'est
oui,
une
mais enfin, l'idée d'avoir jacobinisé l'Europe, qui est une idée française, qui est une idée, c'était Jacques Delors, l'idée que, bah oui, les mêmes on mangerait, par exemple, les fromages ou les crus seraient interdits dans tous les pays européens.
Non,
mais il faut arrêter.
C'est la défense, de la diversité fromagère, c'est l'Europe.
Ben oui, mais c'était pas le cas, je vous signale.
Oui, mais
il a fallu se battre pour obtenir ça.
Pas du tout.
Oui, parce que l'Europe, justement, voulait en finir cette différence.
Et en même temps,
c'est nous qui avons. Oui. C'est le combat pour la défense du fromage au lait cru. C'est un combat français qui visait à éviter que les Suédois ou les Anglais refusent les importations de fromage parce qu'ils étaient au lait cru.
Assez avec le fromage.
La Commission voulait mettre sa main là-dedans.
Je vais rester.
Oui, elle voulait.
C'est la Commission.
Je vais rester dans la nourriture parce qu'il y a une phrase de De Gaulle que cite d'ailleurs Éric Zemmour. Et je suis pas sûr que wokisme d'extrême droite s'applique à lui. Il y a des critiques à lui faire. De Gaulle disait, on ne fait pas d'omelette avec des œufs durs. Et je trouve que c'est une phrase qui demande d'être méditée. Simplement.
Je m'incline devant votre zémourisme parce qu'il est indiscutable.
Je suis gaulliste. Ça suffit. Vous n'allez pas dire ça. On est sur France Culture. J'ai des voisins.
Mais vous citez Zemmour.
Nous sommes trois gaullistes.
Je cite De Gaulle.
Nous sommes trois gaullistes ici autour de la table.
Je suis De Gaulle.
Et sur les œufs durs, nous sommes entièrement d'accord.
Bon, ben très bien. Alors arrêtez.
Non, mais vous avez dit que c'était une citation faite par Zemmour.
Je tiens à.
Ne vous inquiétez pas.
Je tiens à mon émission.
Je ne vous accuse pas de crime imaginaire.
Alors, revenons à Emmanuel Macron, parce qu'il est arrivé au pouvoir avec, si vous voulez, deux piliers fondamentaux. Vous dites, François-Olivier Gisbert, que l'économie est l'angle mort de Mitterrand, l'économie était tout pour Macron. Il disait ceci, si le communautarisme prospère, c'est sur la ruine de nos politiques économiques et sociales, la société statutaire sans perspective de mobilité crée du désespoir social. Donc on va résoudre le problème des banlieues par l'ubérisation de l'économie. On a vu que ça marchait très bien. Et puis aussi, donc il y avait l'économisme, deuxième pilier, le multiculturalisme. Vous le rappelez, Emmanuel Macron a dit, il n'y a pas de culture française, il y a une culture en France, elle est diverse. Il me semble qu'il est revenu de cette double illusion. Mais c'était quand même ça, le fond de sauce, si j'ose dire, du premier macronisme.
Jean-Luc Bourlange. Je crois que c'est les deux phrases, les deux phrases qui ont été les phrases maudites de sa campagne, c'était celle que vous venez de dire. Il n'y a pas de culture en France. Et d'autre part,
il y a pas de culture française.
Pas de culture française. Il y a une culture en France. Et le crime contre l'humanité,
La colonisation est un crime contre l'humanité.
La colonisation a donné lieu à des crimes contre l'humanité, absolument, évidemment, mais n'est pas un crime contre l'humanité. Voilà. Et là, c'était effectivement un déni. Je me rappelle d'avoir beaucoup parlé de Tillignac, qui avait été indigné à ce moment-là, mais après, Tillignac avait compris que Macron lui-même avait compris. Nous avons, les gens du centre, notamment Bayrou, on a à ce moment-là tout à fait protesté contre ça, et je crois qu'on ne l'y a pas retrouvé après Macron. Il n'est pas revenu à ses erreurs initiaux. En revanche, là où vous avez raison, c'est qu'il y a une assez profonde indétermination du projet anthropologique. Parce que vous dites ça, mais en même temps, il nomme Blanquer. Oui, mais à l'époque, moi je crois que...
Mais après, on le jette.
Je crois, oui, enfin, c'est plus compliqué, parce que Blanquer s'était un peu isolé de la communauté éducative par son énergie, par son zèle. Non, mais je crois qu'il aurait dû...
Mais ça, c'est une forme du baccalauréat un peu bizarre.
Depuis 2017, je pense que Macron aurait dû faire de la politique de Blanquer l'axe principal de sa politique sociale. C'était à travers cela qu'on pouvait aborder le problème de l'immigration et de l'intégration, qu'on pouvait aborder le problème de l'ascenseur social, qu'on pouvait aborder le problème de la mise à niveau technologique et de la France, qu'on pouvait aborder le problème du marché social, du marché de l'emploi et de la formation permanente et de la remise au travail des seniors. Tout ça, c'était un point focal. Il aurait dû soutenir ça, mettre tout l'argent dont il disposait, et même celui dont il ne disposait pas, dans cette affaire. Et je pense que ça aurait donné un pilier très important, en plus à une histoire qui n'est pas la mienne, parce que je ne suis pas franc-maçon. J'ai beaucoup d'amis francs-maçons, beaucoup de respect pour les francs-maçons, et je ne suis pas franc-maçon. Mais il faut voir que cette histoire de la laïcité française, inscrite depuis Condorcet, Guizot, Duruy, Ferry, Jean Zay et quelques autres, c'est une grande histoire française. Et je pense que c'est quelque chose que je dis depuis le début. Mais alors, il y a une chose que vous devez bien comprendre, je suis peut-être président de la commission des affaires étrangères, mais que je n'ai jamais été écouté en quoi que ce soit par quiconque.
Mais vous êtes écouté, hélas, ici, à réplique, et vous allez voir, ça va avoir un écho que vous n'imaginez pas. François-Olivier Gisbert.
Alors, l'angle mort de Macron.
Ah.
Puisque c'était la question d'Alain Finkielkraut. D'abord, le communautarisme, c'est évident que la France glisse peu à peu vers le communautarisme. Absolument. Et c'est tout à fait nouveau au cours des dernières années. Et on l'a vu sous le macronisme apparaître un vote clairement communautariste. Hein, c'était d'ailleurs, ça a commencé avec, on se souvenait très bien de ce qui s'est passé au moment des élections de 2012 avec François Hollande, qui avait ce vote. Et là, ce qui se passe,
et
qui est tout à fait...
Hollande c'était a traité différent. Mélenchonisme à travers
ça.
C'est évidemment...
Hollande ne l'avait pas cherché, c'était tout à fait différent. Oui, oui. C'est une autre histoire. Hollande n'est pas un électoraliste bas de gamme à la manière de la France insoumise qui... là, je vais me faire mal voir peut-être de certains auditeurs, mais la réalité, c'est qu'on a un parti qui a décidé de garder un petit magot, qu'on peut estimer peut-être à 15%, qui en fait une force. Parce qu'aujourd'hui, la presse a beau raconter que c'est fini, Mélenchon, il est là et il est très fort. Parce qu'à partir de ces 15%, il pourra se développer et il a le vote communautariste ou le vote arabo-musulman ou comme on veut, le vote musulman et islamiste, parce que ce ne sont quand même pas les mêmes, mais il l'a. Ça s'est passé sous Macron et c'est très intéressant parce que... ça s'est passé sous Macron, je suis désolé, il n'est pas responsable de ça, mais c'est une évolution qui l'a accompagné. Et je dirais le plus important, c'est peut-être le plus important, c'est l'endettement. L'endettement...
Oui, c'est le refrain de votre livre.
Mais c'est le refrain du livre. Regardez, c'est très bien l'histoire du... à un moment donné, quand il y a toutes ces affaires, que ce soit le Covid, ou que ce soit d'ailleurs la guerre en Ukraine, il y a la volonté de l'État d'aider. Évidemment, on est là pour aider.
C'est le quoi qu'il en coûte.
Le quoi qu'il en coûte. Mais quand on est un homme d'État responsable, hein, imaginons par exemple ce qu'aurait fait Barre ou Giscard dans les mêmes conditions. Ils l'ont fait d'ailleurs. Eh ben, c'est, on explique aux Français, c'est de l'argent qu'on va vous prêter. Mais c'est compliqué, il faudra payer après. Mais non, Macron, dans le souci d'être avec aimé, Giscard, parce qu'il y a un complexe Louis XV. Oui, mais il y a un complexe Louis XV avec Macron, vous le savez très bien. Il veut tellement être aimé. Il fait comme si c'était des cadeaux. Et donc, la France, si vous voulez, est aujourd'hui droguée à l'endettement. D'ailleurs, elle n'aura jamais autant emprunté sur les marchés que cette année 2024. Hein, parce que ça, c'est prévu. Tout ça, c'est de la folie. Je suis désolé. Et à un moment donné, il faudra que ça cesse. Vous savez très bien. Alors, à un moment donné, ça s'arrêtera.
Non, un mot pour finir. Un mot.
L'endettement, c'est le malheur de la France depuis 81, tous les présidents confondus. Je crois que Macron a eu raison sur le quoi qu'il en coûte pendant la
mais
Covid.
Mais non, mais d'accord. Mais,
pendant le Covid, il a eu raison, il fallait prendre ces mesures, elles ont été positives. La grande erreur, c'est de ne pas les avoir, l'erreur, c'est de ne pas les avoir isolées d'un continuum. Il fallait faire des dépenses massives à ce moment-là, dans un compte un peu particulier. Et en réalité, il faut absolument se dédroguer de l'endettement. Voilà. Alors, je crois que vous avez entièrement raison.
Il faut de la pédagogie. Il faut de la pédagogie.
Là-dessus, vous êtes absolument d'accord. Alors, je peux vous remercier l'un et l'autre. Rappelez le titre de votre livre, Franz-Olivier Gisbert, le troisième tome de l'histoire intime de la Ve République, Tragédie française. Il est publié, comme les deux précédents, aux éditions Gallimard. C'était Réplique, une émission d'Alain Finkielkraut, avec la collaboration de Corinne Amar, à la réalisation Alexandra Malka, à la technique aujourd'hui Benjamin Troncin. La semaine prochaine, l'émission aura pour titre « La chasse a-t-elle encore sa place dans le monde d'aujourd'hui ?» Mes invités seront Vincent Piednoir et Michel Gauthier-Claire. Et puis, avant de vous quitter, chers auditeurs, je vais vous livrer, pour les jours à venir, une très belle citation que j'ai trouvée dans le livre de Franz-Olivier Gisbert, de Groucho Marx. Dans « Chaque vieux, il y a un jeune qui se demande ce qui s'est passé ». Dans un instant, « Concordance des temps » de Jean-Noël Jeannonet.